France Inter.
Les admirations littéraires de
Sophie Marceau. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec joie que je vous retrouve pour ces dernières admirations littéraires de la saison, en compagnie aujourd'hui de femmes et d'hommes de lettres qui analysent et nomment ce geste si intime et si absolu, celui de l'écriture.
Pourquoi est-ce que vous écrivez ?
Marguerite Duras.
J'écris parce que j'ai commencé, c'est une habitude.
Oui, mais pourquoi est-ce que vous la conservez ?
Je vois rien d'autre qui m'intéresse davantage. Si je trouvais quelque chose qui m'intéresse davantage, je cesserais. Ça, j'en suis sûre.
Écrire dans sa maison, dans sa chambre ou dans son atelier. Écrire au scalpel comme au couteau pour trancher dans le réel, s'en extraire ou le consigner. Écrire au fond d'un trou. L'écriture, c'est ça aussi, la solitude.
Bon, voilà. Je l'ai lu et je ne sais pas quoi dire.
Tu n'as pas aimé, c'est ça ?
Ben, je ne comprends pas bien où tu veux en venir.
Je croyais que c'était ce que tu voulais, quelque chose de plus intime.
Je ne crois pas que parler de sentiments soit vraiment ton fort.
En fait, je crois que c'est au contraire la meilleure chose que j'ai écrite depuis longtemps.
Comment se vouer à cet absolu sans se fixer des règles d'or ? Un cap à tenir, coûte que coûte, sur son exigence dans l'écriture. Car celle ou celui qui s'extrait ainsi du monde est maître de son temps, de sa vie, de ses responsabilités et de ses choix. Cette promesse qu'il et elle se font de soi à soi. Certains acceptent de la partager. Ce sont leurs mots que j'ai choisi de vous dire aujourd'hui.
J'écris comme je veux faire ressentir la manière dont je pense quand je suis au travail.
Joseph Pontus.
C'est-à-dire, quand il y a des collègues qui travaillent sur les carcasses de vaches mortes, pour vendre les steaks, il faut enlever tout le gras de la vache. Il faut garder que le muscle. Et j'ai essayé d'écrire en gardant que le muscle.
J'ai réuni quatre auteurs qui, dans leurs entretiens, discours ou œuvres, vont à l'os pour parler de l'écriture. Le romancier américain William Faulkner, les immenses écrivaines françaises Annie Ernaux et Marguerite Duras, et l'auteur d'un unique et si brillant livre, le français Joseph Pontus. Alors bienvenue dans cette exploration de l'écriture.
William Faulkner, y a-t-il un roman que vous préférez aux autres ?
Oui, c'est celui qui m'a donné le plus de peine, qui a été la meilleure faillite, La Brute et la Fureur.
William Faulkner considère chacun de ses ouvrages comme une faillite par rapport à ce qu'était sa pensée originale. Il existe donc de bonnes et de mauvaises faillites.
Ouvrons cette émission avec le plus radical et autoritaire, William Faulkner, dans un discours droit comme une stèle de marbre. Né dans le Mississippi en 1897, dans une petite ville rebaptisée Jefferson dans ses romans, William Faulkner est un grand écrivain du sud des États-Unis auquel il consacre sa plume et l'un des plus grands écrivains américains du XXe siècle.
Ne pensez-vous pas que chaque sujet doit avoir son style ?
Je dirais que chaque sujet impose inévitablement et irréductiblement le style.
Mettant en scène des héros en lutte contre les forces de la nature ou celles d'un destin maudit dans le sud profond de l'Amérique, il publie dans les années 30 « Le bruit et la fureur »,« Tandis que j'agonise »,« Sanctuaire »,« Lumière d'août » et « Absalon, Absalon ».
C'est lui qui a fait le coup. Son cochon était encore venu dans mon maïs. Il n'y avait pas de barrière pour le retenir. Alors je l'ai mis avec les miens. Je lui avais dit que je lui rendrais son porc s'il me payait $1 pour sa nourriture.
Ouais, alors qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a rien dit du tout. Mais hier matin, il m'a donné sa réponse. Ma ferme a brûlé !
Un incendiaire ! C'est l'être le plus bas, le plus vil qui soit !
Implacable toujours, William Faulkner. La victoire n'est jamais que l'illusion des philosophes et des sots, écrivait-il dans Le bruit et la fureur. Je protesterai jusqu'au bout, ajoutait-il en 1949 à propos de la question de son héritage littéraire. Pas de photographie, pas de documents personnels. C'est mon ambition d'être, en tant qu'individu. Supprimé, évacué de l'histoire, sans y laisser aucune trace, aucun déchet hormis mes livres imprimés. Mon but auquel tendent tous mes efforts est que la somme et l'histoire de ma vie tiennent dans la même phrase qui sera à la fois ma nécrologie et mon épigraphe, « Il fit les livres et il mourut ». En 1950, malgré ses réserves, il se rend néanmoins à Stockholm pour recevoir la récompense ultime, le prix Nobel de littérature. William Faulkner a 53 ans. D'un ton marmonnant et peu audible, il rappelle pourtant avec une telle authenticité les fondements nécessaires, les règles d'or d'un écrivain. J'ai le sentiment que cette récompense n'est pas décernée à l'homme que je suis, mais à mon œuvre. Le travail de toute une vie, passé dans le tourment et la sueur de l'esprit humain, non pour la gloire et moins que tout pour le profit, mais pour créer avec les matériaux de l'esprit humain quelque chose qui n'existait pas auparavant. Dès lors, je ne suis que le dépositaire de cette récompense. Je voudrais me servir de cet instant comme d'un pinacle d'où je puisse me faire entendre des jeunes hommes et des jeunes femmes qui se sont déjà voués au même tourment et au même labeur et parmi lesquels se trouve déjà celui qui se tiendra un jour en cet endroit où je me tiens. Notre drame aujourd'hui, c'est une peur générale et universelle, physiquement ressentie, à présent endurée depuis si longtemps que nous pouvons même la supporter. Il ne s'agit plus des problèmes de l'esprit humain. La seule question est celle-ci. Quand vais-je me désintégrer ? À cause de cela, le jeune homme ou la jeune femme qui écrit aujourd'hui a oublié les problèmes du cœur de l'homme en conflit avec lui-même. Le seul matériau qui puisse produire de la bonne littérature, parce que cela seul mérite l'attention de l'écrivain, mérite le tourment et la sueur. Il doit réapprendre ses problèmes. Il doit se persuader que la peur est la plus vile chose au monde et s'en étant persuadé l'oublier à jamais, ne laissant place dans son atelier à rien d'autre qu'aux antiques évidences et vérités du cœur, ces antiques et universelles vérités sans lesquelles toute histoire contée est éphémère et condamnée. L'amour, l'honneur, la pitié, la fierté, la compassion et le sacrifice. Tant qu'il ne le fera pas, son labeur sera maudit. Il ne parlera pas d'amour, mais de désir, de défaite, où jamais l'on ne perd rien qui vaille, de victoire sans espoir et pique tout, sans pitié, sans compassion. Sa peine devant la mort n'aura rien d'universel, ne laissera nulle cicatrice. Il ne parlera pas du cœur, mais des glandes. Tant qu'il n'aura pas réappris cela, il écrira comme s'il avait devant lui et observait la fin de l'homme. Pour moi, je refuse d'accepter la fin de l'homme. Il n'est pas bien difficile de dire que l'homme est immortel simplement parce qu'il durera, que lorsqu'à la fin du monde, le dernier tintement du glas aura résonné et se sera éteint sur le roc ultime et dérisoire, déserté par les flots dans le rougeoiement et l'agonie du dernier soir, même alors il restera un dernier son, celui de sa pauvre et inextinguible voix, continuant de parler. Je refuse d'accepter cela. Je crois que l'homme non seulement durera, il prévaudra. Il est immortel, non parce que de toutes les créatures, il est la seule à posséder une voix inextinguible, mais parce qu'il a une âme, un esprit capable de compassion, de sacrifice et d'endurance. Le devoir du poète, de l'écrivain, c'est de dire ces choses-là. Il a le privilège de pouvoir aider l'homme à endurer en élevant son cœur, en lui rappelant le courage, l'honneur, l'espoir, l'orgueil, la compassion, la pitié et le sacrifice qui ont fait sa grandeur dans le passé. La voix du poète ne doit pas se contenter de dire l'histoire de l'homme. Elle peut être l'un de ses soutiens, de ses piliers qui l'aident à endurer et à prévaloir.
Les admirations littéraires de Sophie Marceau.
Des mots pour parler de ces mots, pour parler fort, pour parler haut. Des mots prononcés pour l'histoire, des mots sortis de la mémoire. Des mots charmants, des mots d'enfant, des mots pour papa et maman. Des mots nouveaux au dictionnaire, des mots en langues étrangères. Des mots écrits, des petits mots, des mots crachés qui font gros mots. Des mots, toujours des mots. Il faudrait se méfier des mots. des mots pour rassurer parfois, des mots semant le désarroi, des mots chantants, des mots intimes, des mots cruels qui poussent au crime, des mots snobs et des mots d'argot, des mots tranchants comme un couteau, des mots auxquels le cœur succombe, des mots prononcés sur les tombes, des mots vides et des mots ronflants, des mots qui détruisent les gens, des mots, toujours des mots, il faudrait se méfier des mots perfides et sentencieux, des mots pour s'adresser à Dieu, des mots qui restent symboliques, des mots pour les nuits érotiques, des mots qu'on voudrait oublier, des mots très durs à prononcer, des mots qui vous envoient vous battre, des mots prestigieux de théâtre, des mots simples et des mots d'amour, des mots rimant avec toujours, des mots, toujours des mots, il faudrait se méfier des mots.
Sophie Marceau lit des textes qui évoquent la création littéraire.
Autre prix Nobel, plus proche de nous et incisive comme nul autre, Annie Ernaux. L'écrivaine française a été récompensée en 2022 pour le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle révèle les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle.
Annie Ernaux.
La mort de mon père, au fond, c'était pour moi la naissance de l'écriture. C'était un grand choc personnel. Mais en même temps, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive et je ne savais pas encore quoi, mais c'était parler du monde de mon enfance, c'est-à-dire d'un monde qui était le monde de la gêne. Pas de la pauvreté, mais de la gêne, du désir d'être mieux, de passer dans un monde qui soit plus libre et aussi de ne pas sentir le regard d'autrui, toujours se dire est-ce que je suis bien. C'est tout ce qui avait été la vie de mon père. Il me semblait qu'il fallait que je parle de ça. Ça s'est décanté à sa mort. Et en même temps, avec lui, il y a quelque chose qui disparaissait. Il est mort l'année où je suis devenue professeur.
Il a été content de vous voir devenir professeur.
Oui, justement. Et il était extrêmement heureux. Pour lui, j'étais passée dans l'autre monde. J'étais libre maintenant. Mmh. Je ne serais plus comme lui.
C'est dans un magnifique livre d'entretien paru une vingtaine d'années auparavant, en 2003 aux éditions Stock, « L'écriture comme un couteau », qu'elle-même a posé les qualificatifs de « clinique » et « plate » pour qualifier son écriture. Elle avait alors accepté, pour la première fois, d'échanger pendant un an environ, et par courrier électronique, avec l'écrivain Frédéric-Yves Janet. Comment écrit-elle et pourquoi ? L'autrice des armoires vides, de l'événement, des années, de mémoires de filles, pour n'en citer que quelques-uns, revient dans cet extrait sur l'écriture de La Place, le roman consacré à son père et à sa trajectoire sociale qui lui valut le prix Renaudot en 1984. Voici comme elle parle de son écriture. Je crois que tout dans La Place, sa forme, sa voix, son contenu, est né de la douleur. Celle qui m'est venue à l'adolescence lorsque j'ai commencé à m'éloigner de mon père, ancien ouvrier, patron d'un petit café-épicerie. Douleur sans nom, mélange de culpabilité, d'incompréhension et de révolte. Pourquoi mon père ne lit-il pas ? Pourquoi a-t-il des manières frustes, comme il est écrit dans les romans ? Douleur dont on a honte, qu'on ne peut ni avouer ni expliquer à personne. Et puis l'autre douleur, celle que j'ai eue de le perdre brutalement, au moment où je venais passer une semaine chez mes parents, après avoir réalisé, au fond, son rêve pour moi d'ascension sociale. Il fallait que j'écrive sur mon père, sur sa trajectoire de paysan devenu petit commerçant, sa façon de vivre, mais faire un livre juste, correspondant aux souvenirs vivants de cette douleur. J'ai beaucoup tâtonné pendant 5 ans. En 1977, j'ai écrit 100 pages d'un roman que je n'ai pas eu envie de continuer, qui me donnait un sentiment très fort de fausseté, dont l'origine m'échappait, dont je ne comprenais pas la cause, puisque l'écriture et la voix étaient les mêmes que dans les précédents livres. En 1982, j'ai mené une réflexion difficile, qui a duré 6 mois environ, sur ma situation de narratrice issue du monde populaire et qui écrit, comme disait Genet, dans la langue de l'ennemi, qui utilise le savoir-écrire volé aux dominants. Ces termes ne sont pas, comme vous pourriez le penser, excessifs. J'ai eu longtemps, et peut-être même l'ai-je encore, le sentiment d'avoir conquis le savoir intellectuel par effraction. Au terme de cette réflexion, je suis venue à ceci. Le seul moyen juste d'évoquer une vie, en apparence insignifiante, celle de mon père, de ne pas trahir lui et le monde dont je suis issu, qui continue d'exister, celui des dominés, était de reconstituer la réalité de cette vie à travers des faits précis, à travers les paroles entendues. Le titre que j'ai donné à cette entreprise pendant plusieurs mois, « La place », s'est imposé à la fin seulement, était assez clair sur mes intentions. Élément pour une ethnologie familiale. Il n'était plus question de roman qui aurait déréalisé l'existence réelle de mon père. Plus possible non plus d'utiliser une écriture affective et violente, donnant au texte une coloration populiste ou misérabiliste selon les moments. La seule écriture que je sentais juste était celle d'une distance objectivante, sans affect exprimé, sans aucune complicité avec le lecteur cultivé, complicité qui n'est pas tout à fait absente de mes premiers textes. C'est ce que j'ai appelé dans La Place l'écriture plate. Celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. Ces lettres auxquelles je fais allusion étaient toujours concises, à la limite du dépouillement, sans effet de style, sans humour, toute chose qui aurait été perçue par eux comme des manières, des embarras. Par et dans le choix de cette écriture, je crois que j'assume et dépasse la déchirure culturelle, celle d'être une immigrée de l'intérieur, de la société française. J'importe dans la littérature quelque chose de dur, de lourd, de violent même, lié aux conditions de vie, à la langue du monde qui a été complètement le mien jusqu'à 18 ans, un monde ouvrier et paysan, toujours quelque chose de réel.
John Rathbone, Nicolas Fabry.
Vous m'avez lu?
Je ne lis que les classiques.
Ça se voit à votre cravate.
Cambridge, mais bien sûr, ça ne s'achète pas. Je vous laisse, Edward.
Il faut que tu lises mon dernier manuscrit.
Bien sûr que je vais le lire.
Non, tu ne comprends pas. C'est important. Écoute-moi, j'ai besoin de ton avis. Je crois que j'ai écrit un beau roman. Mon roman. Lis-le. Tu verras.
Il faut aimer. Tu parles d'amour, toi? Avec de vrais personnages qui s'aiment vraiment, avec de vraies émotions.
C'est autre chose. C'est personnel.
J'emprunte à présent les mots d'une des plus grandes écrivaines françaises. Je veux parler de Marguerite Duras.
Qui êtes-vous?
C'est une question sans objet. Je suis un écrivain. Rien d'autre qui vaille la peine d'être retenu. Être un écrivain, ça ne veut rien dire. Quand on écrit, si vous voulez, on est cette absence permanente à l'autre qui dure pratiquement le temps que dure la vie, le temps que dure l'écriture. Je ne sais pas jusqu'à quel âge... J'écrirai, mais je sais que depuis l'âge de 18 ans, je ne pense qu'à écrire.
Parlons d'ailleurs avec elle d'écrire, et non d'écriture, de manière à nous concentrer sur l'acte que cela représente. Le recueil, qui regroupe 5 textes, efficacement intitulé « Écrire », paraît en 1993 chez Gallimard, 3 ans avant sa mort. Duras a alors presque 80 ans. J'ai choisi cet extrait dans lequel Marguerite Duras fait le portrait d'une mouche en train de mourir. Une observation à l'os d'un vivant en train de mourir, du microscopique. Elle tire comme personne des leçons d'écriture. Écouter comme Duras, par son regard et ses mots, nous donne accès au secret de l'écriture. J'aimerais raconter l'histoire que j'ai racontée une première fois à Michel Porte, qui avait fait un film sur moi. À ce moment-là de l'histoire, je me trouvais dans ce qu'on appelait la dépense, dans la petite maison avec laquelle communique la grande maison. J'étais seule. J'attendais Michel Porte dans cette dépense-là. Je reste souvent ainsi seule, dans des endroits calmes et vides, longtemps. Et c'est dans ce silence-là, ce jour-là, que tout à coup j'ai vu et entendu... à ras du mur, très près de moi, les dernières minutes de la vie d'une mouche ordinaire. Je me suis assise par terre pour ne pas l'effrayer. Je n'ai plus bougé. J'étais seule avec elle dans toute l'étendue de la maison. Je n'avais jamais pensé aux mouches jusque-là, sauf sans doute pour les maudire, comme vous. J'ai été élevée, comme vous, dans l'horreur de cette calamité du monde entier, celle qui amenait la peste et le choléra. Je me suis approchée pour la regarder mourir. Elle voulait échapper au mur où elle risquait d'être prisonnière du sable et du ciment qui se déposait sur ce mur avec l'humidité du parc. J'ai regardé comment une mouche, ça mourait. Ça a été long. Elle se débattait contre la mort. Ça a peut-être duré entre 10 et 15 minutes et puis ça s'est arrêté. La vie avait dû s'arrêter. Je suis restée pour voir encore. La mouche est restée contre le mur comme je l'avais vue, comme scellée à lui. Je me trompais. Elle était encore vivante. Je suis encore restée là à la regarder, dans l'espoir qu'elle allait recommencer à espérer, à vivre. Ma présence faisait cette mort plus atroce encore. Je le savais et je suis restée pour voir. Voir comment cette mort, progressivement, envahirait la mouche. Et aussi essayer de voir d'où surgirait cette mort. Du dehors, ou de l'épaisseur du mur, ou du sol. De quelle nuit elle venait, de la terre ou du ciel, des forêts proches ou d'un néant encore innommable, très proche peut-être de moi, peut-être qui essayait de retrouver les trajets de la mouche en train de passer dans l'éternité. Je ne sais plus la fin. Sans doute la mouche, à bout de force, est-elle tombée. Que les pattes se sont décollées du mur et qu'elle est tombée du mur. Je ne sais plus rien, sauf que je suis partie de là. Je me suis dit, tu es en train de devenir folle. Et je suis partie de là. Quand Michel Porte est arrivé, je lui ai montré l'endroit et je lui ai dit qu'une mouche était morte là, à 3h20. Michel Porte a ri beaucoup. Et moi, quand je vous la raconte comme ça, dans la vérité, dans ma vérité, c'est ce que je viens de vous dire, ce qui a été vécu entre la mouche et moi et qui ne se prête pas encore à rire. La mort d'une mouche, c'est la mort. C'est la mort en marche vers une certaine fin du monde qui étend le champ du sommeil dernier. On voit mourir un chien, on voit mourir un cheval et on dit quelque chose, par exemple, « pauvre bête », mais qu'une mouche meure, on ne dit rien. On ne consigne pas. Rien. Maintenant, c'est écrit. C'est ce genre de dérapage-là, peut-être. Je n'aime pas ce mot très sombre que l'on risque d'encourir. Ce n'est pas grave, mais c'est un événement à lui seul, total, d'un sens énorme, d'un sens inaccessible et d'une étendue sans limite. C'est bien aussi si l'écrit amène à ça, à cette mouche-là, en agonie, je veux dire. Écrire l'épouvante d'écrire. L'heure exacte de la mort, consignée, la rendait déjà inaccessible. Ça lui donnait une importance d'ordre général, disons une place précise dans la carte générale de la vie sur la Terre. Cette précision de l'heure à laquelle elle était morte faisait que la mouche avait eu des funérailles secrètes. 20 ans après sa mort, la preuve en est faite ici, on parle d'elle encore.
Je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à mes mères. Je je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas. Au nom de la castafiore, au cœur d'artichaut, de la tarentelle et du tartare au couteau, du coulis aux fraises et de ma voix dans l'écho, je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots, mes mots, mes mots, mes mots.
Sophie Marceau lit des textes qui évoquent la création littéraire.
Entrons pour conclure dans le fil d'une autre écriture percutante, celle d'un homme et écrivain contemporain, Joseph Pontus. Né en 1978 et mort prématurément d'un cancer à l'âge de 42 ans, Joseph Pontus a écrit un seul livre, À la ligne, sous-titré « Feuillets d'usine » et quel livre ? Installé en Bretagne en 2015 pour rejoindre la femme qu'il aime, il s'inscrit dans une agence d'intérim pour gagner sa vie. De son quotidien dans une usine de transformation de crustacés et de poissons, et dans des abattoirs, il écrit chaque semaine des textes en vers libres qu'il publie sur son compte Facebook. Le livre paraît ensuite en 2019 aux éditions de La Table Ronde. Les gestes sont machinaux et les pensées vont à la ligne, expliquait-il alors.
J'ai cherché à rendre au plus juste dans l'écrit la manière dont on pense quand on est sur une ligne de production. C'est-à-dire que quand on est à l'usine, les pensées vont très vite. Et pour rendre compte au plus juste de cette vérité, il fallait que je retourne à la ligne, constamment. Et c'est évidemment un double sens qui a imposé le titre au livre assez rapidement, c'est retourner à la ligne de production, puisqu'on ne dit plus des chaînes de production aujourd'hui tous les matins, et retourner à la ligne dans l'écriture et dans les chapitres.
C'est un geste d'écriture nécessaire s'il en est, et admirable en tout point. Des feuillets écrits par nécessité, pour survivre à ce travail éreintant, réinjectant de la pensée et de la beauté sur les gestes répétitifs de la ligne de production, où la puanteur des abattoirs, le froid et le sang, la scansion, la répétition, le martèlement deviennent une langue. Joseph Pontus formulait ce besoin de consigner le réel qu'il ressentait au plus haut point.
On a beau avoir vu des reportages, lu des livres sur l'usine, quand on débarque, c'est une telle violence, et en même temps, paradoxalement, d'une telle organisation aussi un petit peu fascinante, que il fallait que j'essaye d'en faire quelque chose de que je trouve de beau de manière littéraire pour pas sombrer dans l'enfer de la machine. Et c'est tout ce paradoxe qui fait que l'usine est en même temps un lieu qui aliène complètement, et moi qui m'a libéré. Qui m'a libéré dans mon écriture, qui m'a libéré dans mes angoisses.
À la ligne rencontrera un vif succès. En entrant à l'usine, bien sûr j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution, non. L'usine, c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit. Parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur. Alors c'est l'agroalimentaire, l'agro, comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça, de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue. Eh bien, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Prise au mot, j'embauche le lendemain à 6h du matin. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arête dans la gorge. Non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Sur ma ligne de production, je pense souvent à une parabole que Claudel, je crois, a écrite. Sur le chemin de Paris à Chartres, un homme fait le pèlerinage et croise un travailleur affairé à casser des pierres. « Que faites-vous ? Mon boulot ? Casser des cailloux ? De la merde ? J'ai plus d'eau, un truc de chien, devrait pas être permis, autant crever. » Des kilomètres plus loin, un deuxième occupé au même chantier, même question. « Je bosse, j'ai une famille à nourrir, c'est un peu dur, c'est comme ça, et c'est déjà bien d'avoir du boulot, c'est le principal. » Plus loin, avant Chartres, un troisième homme, visage radieux, « Que faites-vous ? Je construis une cathédrale. Puissent mes crevettes et mes poissons être mes pierres. Je ne sens plus l'odeur de l'usine qui, au départ, m'agaçait les narines. Le froid est supportable avec un gros pullover, un sweatshirt à capuche, de bonnes paires de chaussettes et un collant sous le pantalon. Les charges lourdes me font découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence. La servitude est volontaire, presque heureuse. L'usine m'a eu. Je n'en parle plus qu'en disant « mon usine ». Comme si, petit intérimaire que je suis parmi tant d'autres, j'avais une quelconque propriété des machines ou de la production de poissons ou de crevettes. Bientôt, nous produirons aussi les coquillages et crustacés, crabes, homards, araignées, langoustes. J'espère voir cette révolution. Gratter des pinces, même si je sais par avance que ce ne sera pas possible. Déjà qu'on ne peut pas sortir la moindre crevette, il faut bien se cacher pour en manger quelques-unes. Pas encore assez discret, la vieille collègue Brigitte m'avait dit. J'ai rien vu, mais fais gaffe au chef s'il t'attrape. Depuis, je loose des sous mon tablier avec ma triple paire de gants qui me coupe de l'humidité, du froid et de tout le reste pour décortiquer et manger ce que j'estime être à tout le moins une reconnaissance en nature. Je m'emballe. Revenons à l'écrit. J'écris comme je parle. Quand l'ange de feu de la conversation me prend comme prophète, écrivait en substance dans je ne sais plus quoi Barbet de Révilly. J'écris comme je pense sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées seules, déterminées. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. L'embauche, ce ne peut être que cet immense couloir blanc, froid, au début duquel sont les pointeuses autour desquelles on se presse la nuit à l'heure de l'embauche. 4 heures, 6 heures, 7h30 du matin, suivant le travail assigné. Le dépotage, soit les caisses de poissons à vider, le marayage ou l'écorchage, soit la découpe de poissons, la cuisson, soit tout ce qui concerne les crevettes. Je n'ai pas encore eu le malheur d'être de l'après-midi ou de soirée. Commencer à 16h, finir à minuit, ici, tout le monde s'accorde à dire, et j'en conviens jusque-là, que plus tu commences tôt, mieux c'est. Sans compter les heures de nuit, payer 20% de plus. Comme ça, t'as ton après-midi, quitte à se lever tôt. Autant se lever tôt. Mon cul, tes 8 heures de boulot. C'est 8 heures de boulot à quelque heure de la journée. Et puis quand tu rentres à la débauche, tu rentres, tu zones, tu comates. Tu penses déjà à l'heure qu'il faudra mettre sur le réveil. Peu importe l'heure, il sera toujours trop tôt. Après le sommeil de plomb, les clopes et le café du réveil avalé, à l'usine, l'attaque est directe. C'est comme s'il n'y avait pas de transition avec le monde de la nuit. Tu re-rentres dans un rêve ou un cauchemar. La lumière des néons, les gestes automatiques, les pensées qui vagabondent dans un demi-sommeil de réveil, tirées, tractées, triées, portées, soulevées, pesées, rangées, comme lorsqu'on s'endort, ne même pas chercher à savoir pourquoi ces gestes et ces pensées s'entremêlent à la ligne. C'est toujours s'étonner qu'il fasse jour à l'heure de la pause quand on peut sortir fumer et boire un café. Je ne connais que quelques types de lieux qui me fassent ce genre d'effet, absolu, existentiel, radical. Les sanctuaires grecs, la prison, les îles et l'usine. Quand tu en sors, tu ne sais pas si tu rejoins le vrai monde ou si tu le quittes. Même si nous savons qu'il n'y a pas de vrai monde, mais peu importe. Apollon a choisi Delphes comme centre du monde, et ce n'est pas un hasard. Athènes a choisi l'agora comme naissance d'une idée du monde, et c'est une nécessité. La prison a choisi la prison que Foucault a choisie. La lumière, la pluie et le vent ont choisi les îles. Marx et les prolétaires ont choisi l'usine. Des mondes clos, où l'on ne va que par choix délibéré, et d'où l'on ne sort, comment dire. On ne quitte pas un sanctuaire indemne, on ne quitte jamais vraiment la tôle, on ne quitte pas une île sans un soupir, on ne quitte pas l'usine sans regarder le ciel. Demain, en tant qu'intérimaire, l'embauche n'est jamais sûre. Les contrats courent sur 2 jours, 1 semaine tout au plus. Ce n'est pas du Zola, mais on pourrait y croire. On aimerait l'écrire, le 19e siècle et l'époque des ouvriers héroïques. On est au 21e siècle. J'espère l'embauche. J'attends la débauche. J'attends l'embauche. J'espère. Attendre et espérer. Je me rends compte qu'il s'agit des derniers mots de Monte Cristo. Mon bon Dumas, mon ami, le comte ne vient-il pas de nous dire que l'humaine sagesse était tout entière dans ces 2 mots, attendre et espérer ?
Les admirations littéraires de
Sophie Marceau.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Elle a été préparée par Perrine Malinge avec la collaboration de Joseph Ascal. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Julien Chabassu et le mixage par Manuel Couturier.
J'ai été très heureuse de partager avec vous ces quelques admirations littéraires et j'espère que cela vous donnera envie de lire.